par des banderoles et des messages de sympathie.
Trois militants basques interpellés en Seine-et-Marne et dans le sud-ouest de la France dans le cadre d'une enquête menée par le parquet de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une tentative d'attentat sur un golfe de Saint-Jean-de-Luz. C'était au mois de juillet dernier. Ils seraient également les auteurs d'une alerte à la bombe dans un hôtel de Biarritz au mois d'août. Ils sont également soupçonnés d'être à l'origine de tirs sur deux voitures de vacanciers. Ça s'est passé également en août dernier. Notez qu'après 24 jours de grève, le travail reprend au centre Georges Pompidou. Le centre a réouvert ses portes à 14h. La suspension de la grève a été votée à main levée lors d'une assemblée générale des personnels.
On aura tout vu sur France Inter, invité un grand cinéaste qui se réinvente, Francis Ford Coppola.
How could you do this to me? How could you do that, huh? How could you do it to me? You broke our oath.
Pietro, son dernier film, et tout le reste en flashback.
But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that.
Christine Masson.
Laurent Delmas.
But you have no right to judge me.
Demain à 17h.
France Inter. La différence.
15h05, vous retrouvez Daniel Mermet.
Ben voilà, là j'étais sur le net et je lis un message de mon fils qui a 19 ans. Et qui est là à Copenhague. Un message qui date de hier, 15 décembre, à 13h55. Salut maman. Demain, c'est grand jour. Mission prise d'assaut du Bella Center pour le transformer en une assemblée des peuples. Mission Reclaim the Power. Bazar à l'intérieur, manif et attaque à l'extérieur par toutes sortes de groupes affinitaires. Beaucoup d'entre nous iront en prison, mais pas pour longtemps peut-être. Je te tiendrai au courant dès que possible. À bientôt. J'ai du mal à y croire, mais j'espère que nous vaincrons les cordons de police qui seront très nombreux avec leurs chiens pour protéger nos dictateurs et businessmen. Je t'embrasse très très fort. Ton fiston.
Michel, dans le Puy-de-Dôme. J'ai entendu ce matin, comme tout le monde, Monsieur le ministre de l'Agriculture sur France Inter. Monsieur le ministre pense aux agriculteurs toute la journée. Et puis il y avait le témoignage de Pierre, qui lui est agriculteur toute la journée. Et ça faisait une sacrée différence. Salut, merci.
Salut Daniel, c'est Simon de Gières. Alors, sincèrement, j'ai vraiment été bouleversé par le super reportage que tu nous as passé là. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qu'on traînait dans la boue, hein. Et puis, en écoutant, il m'est venu une petite phrase que j'avais entendue dans un cours de philo qui disait qu'une justice vraiment équitable, c'était une justice qui ne condamne aucun innocent, quitte à laisser des coupables en liberté, plutôt qu'une justice qui enferme tous les coupables, quitte à enfermer quelques innocents. Dans cette atmosphère sécuritaire, c'est peut-être une petite phrase voilà à méditer.
AMG de la Basse-Ardèche et de la Drôme, bonjour, vendredi 18 décembre, Café Repère de Saint-Montant. Alors on parle aussi de nucléaire, hein, nucléaire, sujet hautement réactif dans cette région nucléarisée, hein, on a les sites de Creusse et de Tricastin. Venez discuter avec nous de ce sujet en toute liberté et sans tabou, vendredi 18 décembre à partir de 20h au Petit Bistrot, c'est toujours à l'entrée du village. Hein, ciao.
Bonjour Daniel, bonjour à tous, c'est Saïd de Paris. Je veux revenir sur le procès de la scientologie. Ça serait donc, d'après le président de l'Assemblée, la faute d'un petit fonctionnaire qui aurait mal fait son travail si la scientologie a pu sauver sa peau lors de son procès. Je ne reviens pas sur les faits qui ont été rapportés lors de ton émission, mais je pense que pour un peu mieux cerner cette affaire, on peut la mettre en perspective par rapport à une autre affaire qui s'est déroulée en octobre dernier. Je veux parler de ce député UMP, Didier Migaud, qui a dit s'être trompé de bouton lors du vote d'un texte de loi qui proposait de surtaxer de 10% les profits des banques. Il se trouve que ce texte a été adopté à l'issue de ça, et le gouvernement, qui était furieux du résultat, a décidé illico de refaire voter les députés dès le lendemain. Dès le lendemain, il n'a pas traîné des pieds, hein, pour obtenir l'annulation de ce petit texte gênant. Et tout ça en se justifiant de la supposée bourde des députés qui disaient s'être trompés de bouton lors du premier vote. Quel dommage, mais quel dommage que le gouvernement n'ait pas fait preuve du même empressement pour faire revoter les députés au sujet du fameux alinéa perdu. On se demande bien pourquoi. Une simple coïncidence sans doute, encore une. Allez, ciao Daniel.
Petit message aux AMG Berrichon. La neige ne nous arrêtera pas. Ce soir aura lieu la troisième rencontre du Café Repère Berrichon de la Basse et J'y suis. En association avec Attaque 18,
Nous aborderons le sujet brûlant du sommet de Copenhague autour du film Copenhague Ultimatum Climatique. Si ce sommet part en live, nous, au moins, nous restons actifs sur le terrain. Rendez-vous donc à 19h au bistrot Le Guet-Apens à Pigny pour une soirée chaude comme la braise. C'était Jean du Café Repère Berrichon.
Et ce soir au Café Repère Berrichon, on parlera, j'en suis certain, de l'heure que nous allons passer ensemble, car nous avons la solution. Une fois de plus, vous nous direz merci à la fin. Là-bas, si j'y suis, à la solution. La solution, vous la connaissez, c'est l'harmonie entre l'économie, le social et l'environnement. Et cette harmonie entre l'économie, le social et l'environnement porte un nom. Ce nom, c'est le développement durable. Le développement durable, voilà la solution. Plus de problèmes. Il suffit d'appliquer ce développement durable, de développer le développement durable, et tout va bien se passer. Alors nous, ça fait longtemps que nous y croyons, ça fait longtemps que nous nous y intéressons. Et l'an passé, il y a eu au Sénat à Paris un grand forum mondial du développement durable. C'est dire si ça nous intéressait. On y est allé, ou plutôt l'un de nous y est allé. François Ruffin, qui s'est passionné pour tout ce qui se disait là. Monsieur Douste-Blazy, par exemple. Enfin, beaucoup d'autres phares de la pensée et de la politique française étaient là réunis autour de ce thème du développement durable, le forum mondial du développement durable. Et puis, il avait enregistré des entretiens très très importants et on les a gardés pour vous les faire entendre aujourd'hui, justement par rapport à ce qui se passe à Copenhague. Vous allez voir, vous allez passer une heure formidable et vous allez enfin comprendre quelle est la voie que nous devons choisir. C'est celle de la basse J'y suis, c'est celle de François Ruffin et c'est celle du président de la République française. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis repeinte en vert au 01 56 40 37 37.
Bonjour, vous avez votre Père Noël et nous on a Olentzero au Pays Basque. Olentzero, c'est qui? Eh bien, c'est un charbonnier qui descend de la montagne pour annoncer que l'hiver va pas durer, que les fleurs refleuriront, etc. Eh bien, ça tombe bien, il est à Anglette dimanche. Dès 10h, il sera à la mairie. Il sera accompagné par plein d'enfants habillés en habits traditionnels. Il distribuera des bonbons ou bien des morceaux de charbon. Ça dépend si vous avez été sage ou pas. Et puis, il ira jusqu'à la place Lamotte où là, il y aura les célèbres mouchicots. Et puis, on pourra manger des talots, on pourra faire l'apéro avec du vin chaud. Bref, plein de trucs en haut. Ce sera super, donc n'hésitez pas. Dimanche 20 décembre, à Anglette. Attention, il ne vient qu'une fois dans l'année. Alors, à dimanche.
Bonjour à tous les AMG d'ici et d'ailleurs. La prochaine réunion du Café Repère au Regain à l'Alleu, en Ille-et-Vilaine, chez Madeleine et Jean-Yves, aura lieu samedi prochain, 19 décembre, à 19h. Alors, le thème atelier débat autour de la communication en groupe. Présentation d'outils de communication enrichissant le dialogue, favorisant l'échange dans les groupes et la prise de décision collective. Ce débat sera animé par des membres du collectif des Amis de plein gré de Soulevache. Ah, ce thème ennuyeux? Pas si sûr. Ah, j'oubliais. Toujours auberge espagnole. À bientôt.
Mais je leur dis, comment vous faites? Il y a 9% de chômeurs en France. Si on leur dit c'est la décroissance, faut bien qu'ils aient travaillé les gens. Faut bien qu'ils aient un boulot, qu'ils aient un salaire. En Inde, il y a 600 millions de gens qui sont dans la pauvreté. Si on explique que le but c'est la décroissance, où est-ce qu'on va? C'est un raisonnement d'égoïste ça, qui consiste à fermer la porte du progrès au nez et à la barbe de tous ceux qui n'ont pas encore accès. Et puis il y a la politique qu'on propose nous. La croissance, oui. Mais une croissance durable, une croissance respectueuse de l'environnement. Voilà ce qu'on propose, voilà les trois positions sur la table. Clairement, la mienne, c'est celle d'un développement durable.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. Petite excursion dans l'imposture durable.
Ouais, ce matin, Daniel, ce matin, j'ai tiré mes chaussures, repassé ma chemise, rasé ma barbe de près, parce que là, je me rends à un rendez-vous annuel des décideurs. J'ai fréquenté les grandes semaines, tout le gratin du CAC 40, les directeurs de EDF, Suez, British Petroleum, Capgemini, et même Philippe Douste-Blazy. Tout ça sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy. Donc, j'ai préparé un cahier pour les autographes dans mon sac, puisque on entre là, dans les sous-sols du Sénat. Alors, c'est un forum qui veut faire la jonction entre Davos et Porto Alegre. Dans l'agenda des deux journées, il y a quand même beaucoup plus de Davos que de Porto Alegre, puisque une épaisse moquette sous les pieds, des bustes de Marianne au mur. Alors je disais, c'est quand même beaucoup plus Davos que Porto Alegre, parce que dans les invités, il y a Suez, il y a Total. Il y a un seul invité des pays du Sud, c'est un ancien ministre des Finances algérien, donc ça doit être un peu leur Édouard Balladur. Donc c'est ça, pour les forces populaires du Sud, voilà. Pour les forces populaires du Nord, il n'y a pas une seule organisation non gouvernementale. Et comme tout forum à forte dominante écologique, c'est bien sûr animé par Le Point, qui est le news magazine le plus libéral de France.
Cette musique, c'est la musique du développement durable. Écoutez bien. L'économie. Le social. Et l'environnement. Qui jouent ensemble, qui se mêlent, qui se mélangent. Harmonieusement. C'est le développement durable. Voilà la solution, voilà vers quoi nous allons, voilà ce que nous allons développer, le développement durable, durablement. Pourquoi ? Parce que il faut que rien ne change, que l'on ne consomme pas moins, que l'on ne répartisse pas mieux, que l'on n'entrave pas le commerce international, que l'on n'oppose pas d'obstacles sur la route du profit. Bien au contraire, mais ça, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Comment allons-nous faire pour que rien ne change tout en ayant l'air de changer? Comment repeindre la baraque en vert, mais en gardant la baraque et les clés de la baraque? Voilà le souci qu'avait peut-être, mais c'est vraiment du mauvais esprit que je suis en train de faire, avaient peut-être quand même ceux qui ont participé à ce forum mondial du développement durable au Sénat en cette fin de 2008. Toujours est-il que l'envoyé spécial, non seulement de la bas si j'y suis, mais aussi de Fakir, du mensuel Fakir que vous connaissez, était là, c'est-à-dire François Ruffin. Et c'est absolument édifiant. Pourquoi c'est édifiant ? Parce que les acteurs, les représentants de BP France, de Capgemini, ou de grandes entreprises, ou du crédit agricole, inventeur du green banking, et oui, on n'est plus au green business, maintenant c'est le green banking. Tous ces gens-là sont-ils des gens véritablement mauvais et méchants et féroces? Pas du tout. Ils sont les rouages, les sages rouages d'une grande mécanique dont ils n'ont pas forcément conscience, car il est indispensable pour qu'une mécanique fonctionne que les agents soient aveugles. Et on va voir qu'en leur posant les questions d'une manière un tout petit peu décalée, un petit peu prise au dépourvu, tout en les estimant comme on estime un rouage, eh bien, les questions sont surprenantes de silence. Il y a des « il y a des « ah bah oui, il faudrait qu'on en discute » qui vont parsemer cette heure que nous passons ensemble. Une petite excursion dans l'imposture durable. C'est jusqu'à 16h. C'est la passion.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qui l'adhère.
Ça. On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, toutes les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis l'enfant mondial, bloqué par les puissances, les richesses, les multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature, tous tes profits, toutes tes marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadrés par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, plein l'espoir. En plein essor, j'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Pour mieux construire mon empire, je suis capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Si je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, bloqué par les puissances, les très richesses, les multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, bloqué par les puissances, les très richesses, les multinationales. Je suis la conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature.
Alors, juste un mot pour vous dire un peu dans quelle philosophie nous travaillons. Le développement durable est venu, j'allais dire nous protéger, oui, c'est venu comme un paravent en quelque sorte, pour ne pas laisser la bourrasque d'une mondialisation égoïste et incontrôlée tout emporter.
La première surprise, quand on rentre dans cette salle au Forum mondial du développement durable, c'est qu'on s'attendrait à voir des foules immenses avec des échanges passionnés. Et c'est un peu l'inverse. Il y a quoi ? Il y a 80 personnes là dans la salle. La plupart, à mon avis, sont des étudiants qui sont condamnés par leur enseignant à venir ici prendre une leçon d'éthique. Il y a à côté quelques cadres en costume. Mais enfin, la plupart des rangées de fauteuils sont vides. C'est la force d'une idéologie officielle. Elle s'octroie les grands mots. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas grand monde dans la salle, c'est une idéologie qui est adoubée à la fois par le pouvoir, par l'État, puisque c'est sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, c'est adoubé également par les multinationales. Et donc même s'il n'y a pas des foules immenses, mais c'est quand même dans des forums comme ça que se forge, que se prône l'idéologie officielle.
Alors ce sixième forum mondial a choisi de mettre l'accent sur le financement des grandes infrastructures qui sont labellisées développement durable. Pour commencer, il y a urgence évidemment à parler de la question financière et je pense qu'il faut maintenir, je le dis devant d'éminents responsables politiques et socioculturels, il faut maintenir une mobilité des flux financiers à tous les niveaux. Il ne faut surtout pas empêcher le déploiement des finances, mais le faire, comme dirait Goethe, selon un ordre mobile.
Voilà, la finance ne doit pas être entravée. Il faut ne pas empêcher le déploiement des finances, mais le faire, comme dirait Goethe, selon un ordre mobile. C'est ça, sans doute, un condensé de développement durable. Dans les faits, la domination de l'argent perdure, inchangée, et on ne la conteste pas. Mais dans les mots, on la déguise avec du Goethe, avec de la philosophie, avec de l'ordre mobile. Je vais être vache, mais les maîtres du monde ont leur valet de luxe, hein, c'est-à-dire des intellos domestiques, on pourrait dire. Hein, voilà, là, on a un philosophe, ancien dentiste, économiste, journaliste, qui touche à tout, à la psychanalyse, à l'histoire, à la théologie, tout en surface. Et c'est un peu essentiel. C'est comme si on mettait de la crème chantilly sur un gâteau et l'étale de jolis concepts sur le capitalisme.
Je crois que l'heure du développement durable, c'est l'heure de la résilience sociale, c'est l'heure d'une finance un peu plus responsable et d'une éthique de responsabilité.
Et tout ce verbe-là, je sais pas vous, mais moi, ça m'endort. C'est un baratin, je dirais, qui anesthésie, qui endort les critiques, qui est tout un verbe consensuel et creux.
Et je crois qu'il faut le dire, aujourd'hui, chacun doit librement, mais jouer collectif et faire œuvre de communauté.
Face à la crise écologique, c'est la seconde stratégie du capital historiquement qu'on a là à la tribune. La première, elle était plus franche, plus abrupte, plus brute, c'était la négation. Non, le réchauffement climatique n'existe pas. Non, il n'y a aucun effet de serre. Ce sont des lubies d'écolo. Et jusqu'au milieu des années 90, on avait des laboratoires qui livraient des études sur mesure, comme quoi le réchauffement climatique n'existe pas. Et face aux preuves, cette première stratégie du capital ne tient plus. Et donc, la deuxième stratégie du capital, à laquelle on assiste là en direct à la tribune, c'est le développement durable. Et le développement durable, c'est la réconciliation des contraires, c'est-à-dire tout peut se réconcilier, écologie, profit, solidarité avec les pays du Sud, c'est la grande réconciliation grâce au développement durable.
Alors si on a raison de soutenir le système bancaire international et si la finance ne doit pas être entravée, il reste à revoir toute la mécanique financière et avec ce qui se passe actuellement, il faudrait civiliser et les acteurs et les ressorts économiques de cette mécanique financière.
Alors civiliser, ça nous intéresse évidemment au premier chef, nous à la base, c'est ce que nous essayons de faire, civiliser, moraliser, faire de l'éthique, on est absolument en accord, en harmonie avec ce qui se dit dans ce sixième forum mondial du développement durable qui s'est tenu à Paris, au Sénat, devant un aréopage formidable de responsables d'entreprises, de responsables politiques et aussi de Monique Barbu. Monique Barbu est directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial depuis le 15 juillet 2006. Elle est directrice de la division technologie, industrie et économie du programme des Nations Unies pour l'environnement à Paris. Ainsi finit-elle son discours.
Nous n'avons pas d'autre choix que d'être innovants dans notre façon de penser et d'aller vers d'autres mécanismes de financement, et c'est ce à quoi nous travaillons. Merci beaucoup.
Madame Barbu, vous venez d'intervenir. Vous êtes la présidente du Fonds mondial pour l'environnement. Alors moi, le sentiment que j'ai eu en écoutant cette table ronde, l'espérance est placée dans deux choses. D'abord, une autorégulation par le marché. Et le deuxième point, par l'innovation technologique.
On sait bien aussi que de toutes les façons, le futur, il sera dans l'innovation technologique. Et qu'en plus, il est créateur d'emplois. Si vous prenez la crise de l'eau, malheureusement aujourd'hui, si on n'a pas une solution technologique, il n'y aura aucun moyen d'avoir de l'eau. Donc, quel type de désalinisation, quel type de nouvelles technologies pour amener de l'eau et stabiliser des populations, ça c'est évident que ça passera forcément par là.
Une solution qui n'est pas évoquée et qui, pour les pays du Nord, pourrait quand même se poser sérieusement, c'est faut-il consommer moins ?
Consommer moins, je ne sais pas. Consommer mieux, oui. Alors, parce que, enfin, quelque part aussi, il faut être clair que ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de la richesse, c'est de la production et de la production pour être consommée. Donc vous n'amènerez personne à une économie austère et puis il n'y a pas de raison pour que cela se passe comme ça.
Vous dites qu'il n'y a pas de raison d'aller vers une économie austère, mais quand on voit que 20% de la population mondiale consomme 80% des matières premières, est-ce qu'on ne se dit pas que ces 20% devraient se tourner davantage vers une économie austère ?
Non, mais réfléchissons à un système un peu différent, mais doit être réfléchi compte tenu des nouvelles technologies que nous avons pour faire en sorte qu'on puisse consommer différemment.
Je me demande si cette notion de développement durable, c'est pas la tentative de conciliation entre l'économie de marché, le social avec les pays du Sud notamment, et la préservation de l'environnement. Sachant que
c'est pas quelque chose qui va de soi. Parce qu'on pourrait penser aussi que l'économie de marché étant une tentative de maximisation des profits, ça va à l'encontre du social et ça va à l'encontre de la préservation de l'environnement.
Ouais, je suis pour, mais malheureusement, ça demande quelque part une vraie mobilisation.
Alors là, Daniel, je sais pas si tu as entendu tous les « e » de « e » dans le discours de Monique Barbu, et là, je vais les garder au montage, et je vais les garder pas pour me moquer, mais parce que pour moi c'est comme un indice. C'est-à-dire que cette dame, Monique Barbu, trône au sommet d'une institution internationale, hein, elle est présidente du Fonds mondial pour l'environnement, elle est habituée à donner des conférences depuis sans doute 30 ans, et voilà que dans son discours, d'un coup, parce que je lui pose la question du mode de vie, de est-ce qu'il faudrait pas consommer et produire autrement, voilà que dans son discours, les hésitations se multiplient. Il y a des trous, des E qui se multiplient comme des trous dans le discours, et dans ces trous, j'entends comme le doute qui suinte, comme un doute qui suinte. C'est-à-dire que, individuellement, Monique Barbu et sans doute plein de personnes dans cette salle savent que, enfin que, si tous les humains consommaient comme les Français, il faudrait 3-5 planètes. Pour les Américains, ça serait entre 7 et 9 planètes. Mais c'est justement la question interdite ici. Et c'est peut-être la principale fonction de ces forums, de ces réunions, c'est de réassurer collectivement l'élite, que cette élite se bâtisse ensemble une fausse conscience qui ne répond pas aux problèmes, mais qui correspond mieux à leurs intérêts.
Back to common sense. It's time for green banking. Credit Agricole. It's time for green banking. Back to common sense.
Prends ce que tu veux pendant qu'il y en a, ça commence à sentir la faim. Tu voudrais bien pas rester là, mais tu vas pas aller très loin. Tu voudrais choisir une étoile à l'écart de tes vomissures pour aller tisser ta toile, mais le voyage est pas très sûr. Juste un coup d'œil à la planète, pauvre nasse de riche avant que ça pète. Tu voudrais comme un gros tuyau pour balancer tes cochonneries, les foutre sur les Esquimaux, Zanzibar et l'Indonésie. Tu voudrais bien mais tu peux pas, tu voudrais mais tu sais pas où. Tu peux plus planquer ton caca, tellement t'en as foutu partout. Juste un coup d'œil à la planète, le petit coup d'œil du poète. Juste un coup d'œil à la planète, enculé de riche avant que ça pète.
Quel est
le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre? Hein? Question. La réponse, la voici. C'est le secteur bancaire. Non pas à cause du fonctionnement, évidemment, des banques, mais à cause des fournisseurs et utilisateurs du secteur bancaire. Ce qui, évidemment, explique le green banking. Sean Connery, avec le Crédit Agricole, lance le green banking, un financement de projets responsables, une gestion d'actifs engagés, soutenir les énergies de substitution, promouvoir et financer la croissance responsable, une responsabilité sociale active, réduire son empreinte écologique directe et compensée. Voilà ce qu'est le green banking. Voilà, vous avez compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, ou alors qui fait semblant, ou alors qui n'est pas d'accord. C'est quelqu'un comme, par exemple, Sophie d'Ivry, que nous rencontrons avec François Ruffin ce jour-là. Elle est journaliste et militante de la décroissance.
Non, on se trouve ici
avec Sophie Divry. Là, ce matin, en sortant du débat, j'ai voulu interviewer le directeur général de Suez. Il n'a pas voulu répondre à mes questions et j'ai juste entendu dire « j'ai fait mon numéro habituel ».
Oui, mais parce qu'en fait, depuis 10 ans, le développement durable a été intégré dans les rapports annuels des entreprises et ils ont tous embauché un petit ingénieur ou un petit commercial qui a été formé pour défendre le développement durable avec tout ce qu'il y a derrière l'idéologie de capitaliste. Et chacun vient après faire le tour de ce salon-là partout dans le monde. Nicolas Jurescu-Rogan, qui est le théoricien de la décroissance, qui est un économiste roumain, américain, qui a fait des très grands travaux sur l'entropie et l'économie, disait, il n'y a pas de doute que le concept de développement durable est un concept des plus nuisibles. C'est un mot poison.
Comment est né le terme développement durable ?
C'est pas du tout un terme qui a été créé par des militants. Ça a été créé par un rapport de la commission Bootland en 1987, qui était donc dans l'ONU, dans les instances internationales de l'ONU, qui suite à des travaux comme Halte à la croissance, qui était un petit groupe de chercheurs scientifiques, hein, c'était pas des militants non plus. Mais bon, eux, Halte à la croissance, en 1972, disaient croissance zéro.
Le Club de Rome.
Ouais, le Club de Rome, etc. Il y avait en fait une éclosion de l'écologie politique avec une radicalité qu'on a complètement perdue aujourd'hui. Il y avait une remise en cause permanente du capitalisme, de la croissance, de la consommation, issue des années 60 et 70. Et en 1987, après avoir compris qu'en effet, ça commençait quand même non seulement à éclore dans le Nord des mouvements écologistes radicaux, mais en plus dans le Sud, exploité par le Nord, une envie d'autre chose. Eh bien, il y a eu, de la part des institutions internationales, l'invention d'un terme qui a été développement durable.
On contre, en fait, par une invention lexicale, qui est le développement durable.
Oui. Parce que qu'est-ce que c'est que le développement durable ? C'est de concilier l'économie, le social et l'environnement. Mais ce qu'on ne dit pas à la base, il faut toujours s'intéresser à ce qu'on ne dit pas, c'est de quelle économie parle-t-on ? Et on dit, en fait, on veut concilier l'économie ultralibérale, capitaliste, financiarisée, mondialisée, de marché, avec le social et l'environnemental.
Ce que vous pensez, c'est qu'il y a de toute façon une incompatibilité entre l'économie de marché, c'est-à-dire la maximisation des profits, la préservation de l'environnement et le bien-être des pays du Sud. Et on invente la notion de développement durable pour faire dans un mot comme si tout ça était compatible. Et comme on est dans une société pacifiée, on est dans une société où on déteste ce qui est des conflits idéologiques, à travers le mot développement durable, on désarme toutes les oppositions.
Oui. Noël Mamère avait repris dans l'élection présidentielle dans laquelle il était candidat, les questions de croissance durable. Dominique Voynet qui adoube McDonald's en disant qu'ils sont légitimes pour parler d'écologie. Les écolos se liguent avec un politicien de centre droit qui est Daniel Cohn-Bendit. Hulot qui est censé être l'écolo national, travaille avec Bouygues et TF1. Donc, il y a une énorme régression.
À travers le développement durable, on a fait récupérer tous ceux qui auraient pu être dans la contestation, qui étaient jusque-là contre le capitalisme, contre l'économie libérale, et qui se sont ralliés à McDonald's, ici à British Petroleum, à EDF, GDF.
Et il y a eu une victoire, oui, du mot développement durable contre l'écologie radicale.
Il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique.
Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de la croissance, du progrès.
Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à
André
exploiter
Gorsch
au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. L'approche écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
Voilà la voix d'André Gorsch en 1991. Au micro de Marie-France Hazard sur France Culture. Et cette voix, on la retrouve dans un
magnifique livre audio qui vient de sortir chez Textuel, avec un commentaire de Michel Conta, André Gorce, Vers la société libérée. Si vous voulez essayer de comprendre quelque chose à cette histoire, et notamment à ce que André Gorce a appelé l'écologie politique, dont il est le fondateur en France, et ceci dès le début des années 70, dès le début de la grande prise de conscience de la question de l'environnement, eh bien voilà un ouvrage indispensable. Un ouvrage qui serait peut-être d'ailleurs indispensable et précieux à quelqu'un comme M. Douste Blasi, qui participait, figurez-vous, à ce sixième forum mondial du développement durable et qui a beaucoup passionné François Ruffin.
On s'est aperçu qu'il y a 2 milliards 300 millions billets d'avions vendus par an. Sur ces 2 milliards 300 millions, il y en a 2 milliards qui sont vendus par Internet. Et vous n'avez que 3 boîtes privées au monde aujourd'hui qui sont responsables de ces 2 milliards de billets d'avions vendus par Internet. Je suis allé voir les 3 présidents et je leur ai dit, acceptez-vous. Sur chaque écran d'Internet, vous ajoutez ici une petite box, une petite boîte. Voulez-vous donner 2 dollars, ou 2 euros, ou 2 livres sterling, ou l'équivalent, 7 yuan, à Unitel. Les 3 m'ont dit. Nous sommes donc en train d'inventer la première contribution de solidarité citoyenne, mondiale, volontaire. Parce qu'avec 3 personnes, on arrive à toucher l'ensemble du monde. Parce que Internet et la carte de crédit sont 2 outils de mondialisation, de citoyenneté mondiale. Au-delà de la France, au-delà du Royaume-Uni, au-delà des États-Unis, au-delà des États.
Quelle est la grande proposition de Philippe Douste Blasi, secrétaire adjoint auprès de l'ONU? C'est que sur des sites internet où on achète des billets d'avion, il y a en bas une petite box où on pourra éventuellement verser son obole. Et les dames patronesses du 19e siècle passaient leur cédibile à la fin de la messe. Maintenant, c'est même jusqu'au sommet de l'ONU qu'on agite sa petite box. Toute l'ironie, évidemment, c'est qu'à deux chaises de lui, là, à la tribune, se trouve Patrick Haas, le directeur de British Petroleum France. J'ai regardé, sa société a annoncé en 2009 14 milliards d'euros de bénéfices et a augmenté ses dividendes de 15%. Mais à aucun moment, Philippe Douste Blasi ne se dit, tiens, je vais exiger de British Petroleum 7 milliards d'euros maintenant et 7 milliards d'euros plus tard. Je vais réclamer une loi qui ratiboise les profits.
Vous allez avoir 2 milliards de gens qui vont se sentir humiliés et excessivement pauvres et spoliés par rapport aux gens riches. Je rappelle qu'il y a 2 milliards de gens qui sont à moins de 2 dollars par jour. Je rappelle qu'il y a 1 milliard de gens à moins de 1 dollar par jour. Ça, l'économie de marché, ces gens-là sont humiliés. Ils apprennent par Internet, petit à petit, que nous, on va faire des week-ends dans les Alpes. Où c'est la Méditerranée, à 4000 euros le week-end. Ils apprennent ça. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais Internet va lui dire. Bien, je dis que l'économie de marché d'un côté et la démocratie de l'autre sont des gens humiliés qui vont avoir un bulletin de vote. On a intérêt à aider aujourd'hui les pays du Sud. Parce que sinon, je crains que le 21e siècle ne soit excessivement plus violent que le 20e. Merci.
Merci, monsieur le ministre, pour cette intervention vigoureuse et sans langue de bois.
Alors, monsieur Douste Blasi, vous interveniez ce matin dans le cadre de ce forum, sixième forum mondial du développement durable. Le terme développement durable, c'est la tentative de réconciliation entre économie de marché, le social et l'écologie.
Parler de développement durable aujourd'hui, c'est éviter de transformer des menaces virtuelles en drames réels. Si vous prenez aujourd'hui la richesse qui existe dans le monde, vous vous apercevez que vous avez 1 milliard de gens à moins de 1 dollar par jour. Ces personnes totalement démunies vont se retrouver humiliées, certes très pauvres, mais très en colère.
Donc il faut du développement durable pour que cette révolte ne se produise pas. Et alors comment on fait pour que les richesses du Nord aillent au Sud?
En se disant qu'il faut inventer des financements innovants, des financements citoyens. Nous avons commencé avec des billets d'avion, nous avons d'autres idées.
Avant de venir ici, j'ai regardé, puisqu'il y avait à votre table le directeur général de British Petroleum France, j'ai regardé quels avaient été les bénéfices de BP cette année. Les bénéfices de BP cette année approchaient les 15 milliards d'euros, 14 milliards 700 millions, et le dividende versé aux actionnaires va augmenter de 15% cette année. Est-ce que finalement, vous n'aviez pas à 3 mètres de vous une ressource...
Évidemment, ce que vous pensez, moi aussi, je l'ai pensé au moment où j'étais à cette table, je suis allé voir, évidemment, certains pétroliers. Mais pour l'instant, avec ma grande humilité, je dois vous dire que je ne suis pas arrivé.
Allez, oust. Oust. Allez, oust. Il est arrivé en disant, je me l'ai fait. Et pour commencer, je me pointe aux têtes fessées. Puis j'irai au stade juste avant le Capitole. Je vais leur en donner moi de l'accent agricole. Mais tu nous as pris pour des têtes de dindon.
Allez,
la langue de châtaigne, tes promesses bidons.
Allez, oust.
Ma parole, tu nous as pris pour des langoustes.
Allez, oust.
Les mamies, je laisse pousser la mèche. Paraît qu'elle castagne, faut que je me dépêche de mettre partout des képis pour la racaille qui nous vient d'Empalo, du Nord et du Mirail. Mais tu nous as pris pour des têtes de dindon.
Allez, ouf.
Avec tes yeux bâches et tes promesses bidons.
Allez, ouf.
Ma parole, tu nous as pris pour des langoustes.
Allez, ouf. Ouf.
Bon, ça nous rajeunit, ça. Oust, doust, la langouste. C'était en 81, quand l'éminent ministre était candidat à la mairie 2001, était candidat à la mairie de Toulouse, bien évidemment. Alors, on continue. Vous savez ce qui inquiète McDo? Ah oui, c'est les rots des vaches. Quand j'étais gosse, on disait une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Eh ben, maintenant, on s'intéresse aux rots des vaches. Et là, on dit les rots pour pas dire les paix. Et oui, les vaches, ça pète et ça rote, et ça pose d'énormes problèmes, ça pollue très dur. Alors, McDonald's, qui ne pense qu'à notre bien. Alors ça, s'il y a quelqu'un qui pense à nous du matin au soir, c'est McDonald's qui pense à nous, à notre bien, à notre alimentation, à ce que tout se passe bien, à ce que le personnel de McDonald's soit souriant, heureux, etc. Il ne pense qu'à ça, ces gars-là, du soir au matin. Il se lève la nuit. Est-ce que le personnel était vraiment heureux aujourd'hui? Et la femme de McDonald's, allez, Mac, rendors-toi. Ils en peuvent plus. Et donc, ils s'intéresse à ça, au point que Cabu, vous savez, le grand dessinateur Cabu, notre ami, eh bien, dessine maintenant pour McDonald's, après Delanoë, il dessine pour McDonald's. Alors, on est toujours au 6e forum mondial du développement durable. Vous avez vu, c'est passionnant. C'est passionnant parce que les gars disent, bah oui, on n'y peut rien, finalement. C'est formidable. Ils n'y peuvent rien. Ils disent pas, on n'en sait rien. Oh bah oui, vous avez raison, on n'y peut rien. Et voilà. Et ils sont pas bêtes parce qu'ils savent énormément de choses, ces gens-là. Ils savent énormément de choses. On se moque de Douste Blasi, mais il sait énormément de choses. Et puis il avoue qu'à part faire un peu la quête, voilà, un petit peu trois petits sous qu'on pourrait mettre dans un coin, on n'a absolument pas les moyens dans l'état actuel du monde tel qu'il va de lutter contre ces destructions de l'environnement, comme d'ailleurs du social. Donc on continue cette petite excursion dans l'imposture durable lors de ce 6e forum mondial qui s'est tenu au Sénat à Paris, rencontre avec la directrice générale de Capgemini, Colette Lévinaire.
Alors, Madame Lévinaire, vous êtes directrice de Capgemini. Il y a eu une étude qui a été menée par Capgemini, en fait.
Oui, c'est exact. Nous avons publié récemment notre observatoire des marchés européens de l'énergie. C'est d'ailleurs la 10e édition de cette étude. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'en fait, il y a des objectifs au niveau européen qui sont de la décroissance de la consommation d'énergie et de la décroissance des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2. et que ces objectifs ne correspondent pas à la réalité. En quelque sorte, on a vu que sur cette période, la consommation d'énergie n'a pas diminué et les gaz à effet de serre n'ont pas diminué.
On va dans le mur écologique.
On est dans le mur de deux côtés. D'un côté, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuaient pas. Et d'un autre côté, la consommation d'énergie ne diminue pas. Et quand on regarde les centrales électriques que les électriciens européens veulent construire dans les années qui viennent, eh bien à peu près 60% de ces centrales seront alimentées par du gaz et aussi du charbon, qui sont des énergies fossiles et qui donc émettent du CO2.
Donc finalement, l'essentiel de l'investissement encore aujourd'hui, oui, c'est vers des énergies fossiles, qui sont fortement émettrices de dioxyde de carbone.
Absolument, absolument. Donc ça veut dire que si ces investissements se réalisent, et ils vont se réaliser, eh bien on va non pas diminuer les émissions de CO2, mais on risque de les accroître.
Alors dans votre étude, vous montriez que finalement, le meilleur moyen de ne pas émettre de CO2, c'était de ne pas en produire, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie.
Ah oui, moi je crois fondamentalement que la première chose, c'est de réduire la demande. Aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance à des signes extérieurs de richesse, si j'ose dire, qui sont d'avoir une grosse voiture, d'avoir... Donc tant qu'on ne sortira pas de ce modèle, qui est le modèle des sociétés européennes, encore plus des Américains, et que les Chinois et les autres veulent suivre, effectivement, on consomme vite, trop vite, les ressources de notre planète, hein. C'est sûr. Alors, si on n'arrive pas à le faire en douceur, mais je ne suis pas optimiste, si on n'arrive pas à le faire en douceur, il y aura une rupture brutale. Beaucoup de civilisations ont disparu par manque de ressources, hein. Notre civilisation, c'est pas moi, c'est peut-être pas vous, mais enfin, risque de disparaître.
Et vous voyez, là, on est en privé, presque. Hein. Enfin, il y a un micro, bien sûr, mais vous êtes directrice chez Capgemini, donc vous êtes quand même une dirigeante de tout ça. Et on voit les questions que vous, en privé, vous vous posez, qui peuvent être même un petit peu radicales. Et en public, même dans ce qui est supposé être un espace intellectuel, j'ai pas le sentiment, là, au 6e Forum mondial du développement durable, que les questions soient posées de manière aussi abrupte.
Je crois qu'il n'y a pas eu question.
Donc là, Daniel, on était avec la directrice générale de Capgemini, entreprise cotée au CAC 40, donc qui appartient à l'élite capitaliste, on peut dire, vient de s'inquiéter, se demandant si le mode de développement actuel ne mènerait pas la civilisation à sa perte, si le capitalisme ne conduirait pas à la destruction de la planète. C'est quand même... Mais ce qu'elle raconte là, elle ne clame pas à la tribune. À la tribune, tout continue normalement. Là, pendant qu'on discutait avec Colette Lévineur, j'ai vu Jean-Louis Chaussade, donc le directeur général de Suez Environnement, qui est sorti et qui a lâché à la sortie de la salle. J'ai fait mon numéro habituel, parce que en public, à la tribune, le numéro habituel se poursuit pour dire que c'est par le recyclage des matières premières, c'est par les sources d'énergie alternatives, par l'autorégulation des marchés. C'est comme des sparadraps qu'on colle sur la planète. Il faudrait pas que la prise de conscience conduise la bourgeoisie à la crise de confiance.
Congélateur dernier cri.
Je vais.
Cafetière congrenable.
Je l'ai.
Écraseur compresseur à bouteille.
Je l'ai aussi.
Lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Machine à laver le lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Machine à laver la machine à laver le lave-vaisselle économique.
Je l'ai.
Ouvre-boîte électrique.
Je l'ai.
Multi-robot, multifonction, machine à laver la cervelle.
Pareil, je l'ai.
Couteau à huître.
Je l'ai.
Couteau à beurre.
Je l'ai.
Diffuseur, absorbeur d'odeur.
Je l'ai.
Poubelle belle, couteau nettoyante.
Je l'ai acheté, je l'ai.
Fouille tout, mélange tout.
Je l'ai depuis le début, quand c'est sorti, je l'avais acheté.
Fourchette auto-nettoyante.
Pareil, je l'ai aussi.
Écosseuse à petit poids.
Je l'ai.
Coupe-poignon thermique.
Je l'ai aussi.
Toaster radio intégré.
C'est pareil.
Centrifugeuse à neutrons.
Indispensable.
Auto-laveur solaire.
Je l'ai.
Piqueteuse multi-cerise.
Ouais, pareil.
Porte-couteau. Porte-serviette.
Je l'ai.
Porte-secours, cas de besoin.
Je l'ai aussi.
Exhausteur de saveur.
Pareil.
Petit guide du manger sain.
Ben oui, je l'ai.
Une cloche à fromage qui sonne.
Je l'ai.
Qui t'attache chaque repas. Un attrape-nouille.
J'ai
pas ça, j'ai pas. Je vais commander ça. Je l'ai pas. Attrape. Nouille,
comme nouille.
Avec deux ailes, donc.
Alors, dans chacune des sessions, ça s'appelle session, il y a à la fois une personne de l'énergie atomique qui intervient et une personne de l'industrie pétrolière. Pour l'ouverture, il y a Patrick Haas, qui est président de British Petroleum France. Pour la session 1 sur les priorités, c'est Philippe Lambert, directeur de la communication de British Petroleum France, qui intervient. Pour les financements, on retrouve à nouveau Patrick Haas, président de British Petroleum France, pour la session 2. Pour les conclusions, on a à nouveau Philippe Lambert, directeur de la communication de British Petroleum France. C'est vrai qu'on va aller interroger un peu British Petroleum pour savoir qu'est-ce que signifie exactement le développement durable.
Bien, merci. Une question très brève.
Bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur Haas, responsable de British Petroleum France. J'ai vu que vous participiez. Il y avait quelqu'un de British Petroleum à chaque table ronde de ce forum sur le développement durable. Donc je suis allé voir un petit peu sur Internet. J'ai vu que, par exemple, aux États-Unis, il y avait eu une autorisation délivrée à British Petroleum de rejeter un kilo de mercure, ce qui est 25 fois supérieur aux normes fédérales américaines, de rejeter un kilo de mercure dans les lacs du Grand Nord, qu'il y avait eu par ailleurs en Alaska près d'un million de litres de pétrole qui s'était répandu en Alaska suite à des problèmes de corrosion des oléoducs. Il y a eu une enquête du Congrès américain qui démontrait que c'était par souci d'économie que British Petroleum s'était abstenu pendant longtemps de renouveler ses oléoducs. Donc la conclusion du rapport, c'était de dire que c'était par souci d'économie et que ça fonctionnait, puisque British Petroleum avait fait en 10 ans 114 milliards de dollars de bénéfices. Donc ma question, c'est comment on concilie maximisation du profit et développement durable.
On peut concilier tout ça. On peut concilier faire du profit et faire du développement durable. Parce que si on entend ce que vous dites, on a économisé des sous en Alaska et du coup on a eu des fuites. On essaye de rejeter plus de mercure que la loi nous y autorise dans un lac. Et en fait, et qu'est-ce que vous fichez sur ce forum qui est un forum de développement durable ? Honnêtement, humainement, et en tant que représentant de ma société, je ne sens pas d'incompatibilité entre le fait d'avoir fait ce que vous dites et être ici aujourd'hui. Je crois que... Mais c'est une vraie question. De même, si vous voulez, qu'on s'est posé la question pendant un moment, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, de savoir si on devait rester ou partir. Et on a choisi de rester à un moment où toutes les autres compagnies partaient. Parce qu'on s'est dit, il vaut mieux rester à l'intérieur pour faire changer le système. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est une non-réponse à une bonne question.
Je pense qu'il faut quand même remettre à plat les fondamentaux. Le rôle de l'entreprise, c'est pas de régler tous les maux de la planète. L'entreprise, elle est là pour créer de la valeur. C'est une réalité. Une entreprise, elle se lance dans le développement durable parce que c'est un facteur de motivation en interne, le consensus parfois, et puis que ça devient de plus en plus un atout concurrentiel pour le business et pour le recrutement. Alors après, je veux dire, il ne faut pas demander à l'entreprise ce pour quoi elle n'est pas faite, quoi.
Merci. Une question très brève.
Après ça, Daniel, j'ai plus grand-chose à ajouter. Pas seulement parce que je suis convaincu, moi aussi, que c'est grâce à BP et non grâce à Nelson Mandela que l'Afrique du Sud s'est libérée de la période apartheid, mais surtout parce que l'intervenant là vient de lancer un réquisitoire contre l'autorégulation et dit bien les entreprises sont là pour créer la valeur, c'est-à-dire pour faire du profit, il faut pas leur demander autre chose. Donc si on veut leur demander autre chose, eh bien il faut des taxes, il faut des barrières douanières, il faut des lois contraignantes, il faut poser des interdits devant leur puissance. Alors que c'est fait au forum, au contraire, à part dans cet instant où on enlève le masque, ces forums sont faits justement pour prôner l'autorégulation. On va se charger nous-mêmes de sauver la planète. C'est pas la peine que les militants écolos viennent nous embêter.
Vous avez besoin d'une bonne question. Je
vous allez aller plus loin.
Ah bon?
Alors là, on pourrait croire que pour ma question désobligeante, je serais chassé du forum à coup de tatane. Mais au contraire, là, il y a tous les directeurs du développement durable de la salle qui sont venus m'interroger, me convaincre. Et Patrick Haas, le directeur de British Petroleum France lui-même, m'a remis sa carte en me disant « Venez nous voir, c'est important qu'on discute ». Et donc, ben voilà, j'ai enfin, grâce au Forum mondial du développement durable, j'ai enfin trouvé ma vocation. Je vais aller voir Patrick Haas, je vais rejoindre l'industrie pétrolière, mais tout ça, évidemment, dans le seul but de sauver la planète.
Et voilà, et voilà, et voilà, François Ruffin l'entendra plus, il est chez British Petroleum. Désormais, voilà, alors si vous voulez en savoir plus ou entendre, ou plutôt lire ce que vous venez d'entendre, eh bien vous avez Fakir, le numéro de décembre de Fakir, le journal de François Ruffin, La République des héritiers, Il règne sans être élu, Ma soirée Godemiché, voilà ce qu'il a ce collaborateur de British Petroleum passé soirée, et La fabrique de l'hypocrisie, c'était le sujet d'aujourd'hui, de cette petite excursion dans la posture durable. Merci à tous, merci à Sophie Livry, Monique Barbu, Colette Lévinaire, merci aussi à Monsieur Philippe Douste-Blazy et Monsieur Patrick Haas, à rappeler le livre d'Hervé Kempf, réédité par les éditions Point en janvier 2009, Comment les riches détruisent la planète, et puis l'ouvrage que j'ai évoqué, André Gors, Vers la société libérée, un livre CD paru le 23 avril 2009 chez Textuel. Voilà, vous pouvez avoir des compléments d'information sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org. Toute l'équipe de là-bas si j'y suis est au garde à vous, notamment Catherine Pinto qui attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Vous voulez devenir plus riche que riche? Ah bon? Alors vendredi, Euromillions met en jeu près de 59 millions d'euros. 59 millions. Heureusement, ma petite machine les compte à ma place. Ah! Doit y avoir un petit million qui bloque là. Aïe, aïe, aïe.
Estimation non garantie des gains à partager en un, voire règlement.
Euromillions. Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Demain, on part en Inde, on part au Kerala à 15h dans la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Stéphane Leneuf. Salut.
Nicolas Sarkozy est arrivé à Copenhague au sommet sur le climat. Il doit s'exprimer devant la conférence dans quelques instants. Le sommet de plus en plus mal en point. Les négociations sont bloquées. Il semble difficile de réussir à trouver un accord d'ici demain. Pourtant, Alain Juppé, le maire de Bordeaux et ancien ministre de l'Environnement qui est présent sur place, veut croire encore à un accord. Il s'est confié à Nathalie Fontrelle.
Je dois dire que le processus de négociation est difficile à suivre. Ça ressemble à une grande pagaille. Peut-être que le désordre est créateur. On va voir ça dans les 48 heures qui viennent. Mais maintenant, il faut une impulsion politique. Parce que si on s'en tient au travail des experts, on s'en sortira pas.
Est-ce qu'une simple déclaration politique suffirait?
Pour tous ceux qui y croient, la réponse est évidemment non. Si on se borne à une nouvelle exhortation, on en a fait beaucoup. J'écoutais les discours, la main sur le cœur, tout le monde dit « il faut y aller, il faut y aller ». Mais je pense qu'il est absolument indispensable qu'on aboutisse à un texte qui donne des chiffres, des calendriers, des engagements précis. Apparemment, on en prendra le chemin. Il y a aussi une dramaturgie de la négociation internationale. Il faut bien que les chefs d'État et de gouvernement servent à quelque chose, c'est-à-dire à débloquer ce qui sans eux n'avancerait pas. C'est une vision optimiste des choses, je veux encore y croire.
Et Barack Obama est attendu demain matin à Copenhague. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre condamne Renault pour faute inexcusable dans le suicide d'un de ses salariés. Un ingénieur informatique s'était jeté du cinquième étage du technocentre de Renault dans les Yvelines, c'était en octobre 2006. Sa famille estimait que le constructeur n'avait pas respecté ses obligations de sécurité et que le stress professionnel auquel il était soumis avait directement contribué à son geste. L'affaire de l'Angola Gate, Pierre Falcon reste en prison. La cour d'appel de Paris rejette sa demande de remise en liberté. Il était condamné fin octobre à 6 ans de prison ferme. Dans l'attente de son procès en appel, la cour a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier de son son immunité, une immunité liée à son passeport diplomatique délivré par l'Angola en 2003. 8000 policiers seront mobilisés dans l'agglomération parisienne pour les fêtes de fin d'année, chiffre annoncé aujourd'hui par Brice Hortefeux. Notez qu'un commissariat mobile est installé devant les grands magasins de la capitale. Le quartier Haussmann reçoit en ce moment 1 million de visiteurs par jour. Johnny Hallyday et son épouse engagent une procédure judiciaire civile contre le docteur Delajoux et la clinique parisienne du Parc Monceau. Le couple réclame la désignation d'un collège de médecins experts. Ils devront établir si des erreurs ont été commises lors de l'opération d'une hernie discale. C'était le 26 novembre dernier. Une audience en référé prévue lundi matin au tribunal de grande instance de Paris. Écoutez le professeur Claude Liénard. Il est un spécialiste du droit de la réparation civile et du préjudice corporel.
Pour monsieur Hallyday, comme pour tout patient, lorsque vous êtes opéré dans une clinique, il y a deux intervenants. Il y a le chirurgien, qui a une responsabilité civile professionnelle personnelle pour l'acte de chirurgie et pour ce qui est fait avant et après, dont il est responsable. Et il y a une clinique dans laquelle on est soigné, qui a également des obligations en termes de soins. Et si on ressort d'une clinique après une opération dans un état qui n'est pas conforme à ce qu'on pouvait espérer ou estimer, et par rapport au risque qu'on vous a exposé, il peut se poser la question d'une recherche de responsabilité. Se poseront effectivement deux séries de problèmes de responsabilité et d'indemnisation, économique pour le producteur, mais également il y a la réparation à laquelle a droit tout individu qui a subi une atteinte qu'il n'aurait pas dû avoir dans son intégrité corporelle suite à une erreur, si on en détermine une.
Et encore la galère demain pour les usagers de la ligne A du RER. Poursuite de la grève, les négociations entre les directions de la RATP, les conducteurs qui réclament des revalorisations salariales sont toujours au point mort.
And now. Silicone ou icône? Je te connais.
Avec Vali, à la limite, je préfère un groupe qui arrive, qui fait 1, 2, 3, 4, qui balance la sauce.
On est bien d'accord. Voilà.
Sur un accord bien crétin.
Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est cheesy.
System Disc, demain soir, de 22h à 23h.
France Inter présente Cécilia Bartoli, Sacrificium. Un voyage hors du commun dans l'univers des castrats.
Retrouvez Cécilia Bartoli et les plus beaux airs pour castrats dans les émissions et le programme musical de France Inter.
Sacrificium, Cécilia Bartoli avec France Inter.
La différence.
Une heure de musique avec Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphane. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Quelques nouveautés pour commencer. Un disque qui s'appelle French Cancan, tout simplement. Et Gaieté Parisienne est à l'honneur, comme très souvent d'ailleurs cet arrangement de Manuel Rosenthal, compositeur et chef d'orchestre français, élève de Maurice Ravel, qui avait pris quelques pièces d'Offenbach pour faire ce qui devait être un bide, en principe un échec total, et c'est devenu un succès mondial. La preuve, on enregistre tout le temps. Et là, c'est une version un tout petit peu ancienne, c'est l'orchestre de Philadelphie, dirigé par Eugène Ormandy, qui est réédité. Gaieté Parisienne, c'est composé de plusieurs extraits d'opérettes d'Offenbach. Là, la grande valse qu'on va pouvoir déguster est tirée de la Péricole. La Péricole, c'est une artiste des rues qui est fauchée, et puis elle va vivre au chaud avec le vice-roi du Pérou. Elle s'excuse auprès de son amant et elle chante « Oh, cher amant, je te jure que je t'aime de tout mon cœur, mais il est vrai, la misère est trop dure, nous avons trop de malheur, tu dois le comprendre toi-même, et etc. etc. » Elle va le retrouver, qu'on se rassure. De toute façon, là, il n'y a pas le texte, il n'y a que le tissu instrumental.